Bonjour Anthony Bélanger.
Bonjour Jérôme, bonjour à tous.
Vous revenez ce matin sur le droit à l'avortement aux États-Unis.
Oui, le sujet enflamme la presse américaine depuis qu'un brouillon de jugement de la Cour suprême a fuité dans les médias. Ce brouillon, s'il est adopté tel quel, eh bien abrogerait la fameuse décision de 1973 dite Roe versus Wade et qui fait de l'avortement un droit constitutionnel aux États-Unis. Les conséquences seraient immédiates. Plus de la moitié des États américains n'attendent que cela pour interdire ou restreindre sévèrement l'avortement. À l'image du Texas, qui a adopté l'année dernière une loi l'interdisant au-delà de 6 semaines de grossesse, ou de l'Oklahoma qui vient de limiter. Mais le plus incroyable est que les 3/4 des Américains soutiennent le droit des femmes à avorter dans les limites légales qui, aux États-Unis, vont jusqu'à 24 semaines. S'opposer à l'avortement est le fait, en fait, d'une toute petite minorité, souvent religieuse.
Alors, comment a-t-elle réussi à s'imposer ?
Eh bien, en militant partout et durement et en s'enquistant dans le parti républicain, comme cette minorité religieuse vote beaucoup et se mobilise ardemment, elle pèse d'un poids disproportionné sur les primaires qui désignent les candidats. Et ensuite sur les élections, puis cette minorité conservatrice et religieuse a noyauté les assemblées législatives des États. Aujourd'hui, dans une bonne moitié des États-Unis, on ne peut plus être élu sans s'opposer à l'avortement. Ce processus a mis 50 ans à se consolider. Il s'est cristallisé avec les présidences de Donald Trump. Le président le plus caricaturalement conservateur, on va dire, de l'histoire des États-Unis, a pu nommer 3 juges à la Cour suprême. Et il a pour longtemps fait basculer la plus haute juridiction du pays, très à droite, 6 juges conservateurs, 3 progressistes. Un processus qui, je tiens à le souligner, est éminemment démocratique.
Oui.
C'est même toute la beauté de la démocratie américaine. Les mouvements sociaux et idéologiques partent du bas, de militants convaincus, acharnés, pour arriver, après des années de lutte sans pitié, qu'elles nous plaisent ou non, à imposer leurs idées.
Alors, quels sont les arguments de la Cour suprême ?
Alors ça, c'est intéressant parce que l'argument principal est typiquement conservateur et fait d'ailleurs un peu froid dans le dos. Le juge qui a rédigé ce brouillon explique que l'avortement, n'étant pas cité explicitement par la Constitution, c'est assez logique d'ailleurs puisqu'elle date de 1776, je le rappelle, il ne peut être reconnu comme un droit constitutionnel qu'à une condition. Si l'avortement avait été associé à l'idée de liberté américaine pendant assez longtemps pour être validé par l'histoire. Or, poursuit le juge, c'est l'inverse qui est vrai. L'avortement a été illégal et réprouvé pendant l'essentiel de l'histoire des États-Unis. Ça fait froid dans le dos parce que le même genre d'argument pourrait être utilisé pour le droit à la contraception, par exemple, ou le droit d'avoir une relation avec une personne de même sexe. En revanche, l'autre argument avancé est difficilement critiquable. Le juge explique que s'il revient à la Cour de décider de la constitutionnalité de l'avortement, eh bien c'est parce que le législateur n'a pas fait son boulot. Or, c'est vrai, quand un domicile les sénateurs américains ne sont jamais parvenus à graver ce droit pourtant si précieux pour les 3/4 des Américains, je le répète, dans le marbre de la loi.
Merci à vous, Anthony Bélanger. France Inter.